Aujourd'hui, la presse va mal parce que la démocratie va mal.
Quatrième murmure.
Il nous faut réagir, réagir vite et ensemble.
L'émission qui porte la voix de la presse libre et des médias indépendants.
Moi, ça me fait respirer. En fait, la presse indépendante, elle m'ouvre des poches de respiration.
Un mardi par mois à 20h sur Radio Campus Paris.
Libérons l'info des pouvoirs politiques, des médias de la haine et des milliardaires.
Que faisiez-vous il y a un an ? Vous ne vous posez sûrement pas cette question tous les jours et pourtant, combien de décisions, combien de rencontres, combien de révélations, aussi minimes soient-elles, ont fait de votre vie ce qu'elle est aujourd'hui ? Quel est l'impact sur votre quotidien de ce que vous avez fait l'an dernier ? Cette question non plus, vous ne vous la posez pas tous les jours. Dans le monde du journalisme, on ne se la pose pas non plus très souvent. Que sait-on de la façon dont les EHPAD ont continué d'accueillir les personnes âgées dépendantes après les révélations du livre-événement Les Fossoyeurs ? Que sait-on de ce que devient le commerce d'armes à Israël quand on apprend, par la presse indépendante là encore, que la France lui en livre des composants en plein génocide à Gaza ? De telles enquêtes créent bien sûr une onde de choc médiatique lors de leur parution. Mais cette déflagration n'est pas vraiment suivie des déferlements successifs que devraient représenter de tels tsunamis d'investigation. Alors, au-delà des enquêtes et des révélations de la presse indépendante, quels sont les impacts de ces enquêtes dans la société et que permettent-elles vraiment de changer ? Encore une question que vous ne vous posez sûrement pas tous les jours. Mais pas de panique, la presse indépendante est là, et de son écume bouillonnante jaillit un média qui, lui, lutte contre l'obsolescence de l'information et permet de mettre en lumière les effets concrets du journalisme d'investigation. Ce média qui rembobine à contre-courant de l'actualité en continu, il porte bien son nom. Il s'appelle Rembobine, et on accueille aujourd'hui sa cofondatrice, la journaliste Cécile Massin. Bonjour à toi Cécile.
Bonjour.
Et ce soir, autour de la table de Quatrième Murmure, on n'est pas tout seul. On est aussi avec Marion qui réalise l'émission ce soir. Salut Marion, est-ce que tout fonctionne en régie ?
Eh bien, je crois que tout fonctionne.
Et on est aussi en compagnie de Marine qui présentera sa chronique sur le design dans les médias indépendants, ainsi que Luna. Bonjour à toutes les deux.
Salut.
Bonjour.
Alors Luna, toi tout à l'heure, tu iras en région à la rencontre d'un média qui n'est pas très loin de chez nous. Je n'en dis pas plus, alors restez avec nous, vous écoutez Quatrième Murmure, on va parler de journalisme d'impact avec le média Rembobine, et c'est bien entendu sur Radio Campus Paris.
Quatrième Murmure, sur Radio Campus Paris.
Mais avant tout ce beau programme, pour commencer, je vous propose de faire un petit tour de ce qu'il s'est passé dans la presse indépendante ces dernières semaines. Et ce mois-ci, c'est donc toi, Marion, en plus de réaliser l'émission, qui nous a préparé une petite revue de presse.
Eh bien, pour ma première apparition dans cette douce émission, j'aurais pu choisir, pour en assurer le succès, de la faire démarrer avec un peu de légèreté, des nouvelles qui font plaisir à entendre ou au moins pas complètement repoussantes. Et finalement, j'ai choisi de vous parler de guerre. Attendez, ne partez pas tout de suite, je vais quand même parler de mort aussi. Mais vraiment, attendez. Parce que même si vous en entendez parler partout en ce moment, n'oubliez pas qu'il s'agit de la revue de presse des quoi ?
Des médias indépendants.
Et oui, Pierre-Yves. Qui nous donne à voir une autre réalité que celle des va-t-en-guerre qu'on entend partout dans les médias.
Pas indépendants.
Exactement. Ici, pas de peur déraisonnée d'une guerre absolument inéluctable avec les méchants russes qui vont envahir toute la France d'ici 2 semaines, mais de l'analyse et une prise de recul. Elle nous a sans doute pas échappé, cette petite phrase choc énoncée par notre chef d'état-major qui annonce à nos chers élus locaux qu'il faut se préparer à perdre nos enfants. Eh bien, si dans beaucoup de médias, de plateaux, cette phrase a été reprise et commentée telle quelle, quitte à remettre une couche d'angoisse dans le climat actuel qui est déjà bien assez lourd, d'autres se permettent une analyse teintée d'esprit critique. C'est par exemple le cas du média Frustration, qui nous propose un article qui replace la personne dont on analyse le discours. C'est un militaire qui représente certains intérêts. Je cite... Contrairement à ce qui a été parfois dit trop rapidement dans les médias et les discours politiques, il n'a pas appelé à un conflit avec la Russie, il l'a annoncé pour 2030 et développe l'idée selon laquelle, en augmentant leurs moyens militaires, la France et l'Union européenne pourront l'éviter. Ce n'est pas un discours guerrier, mais c'est un discours d'escalade militaire. Fin de citation. On voit très bien où nous mène cette rhétorique, agiter une menace qu'on prétend inéluctable pour présenter nos intérêts comme la seule alternative à la crise à venir. L'article nous appelle donc à la plus grande prudence, à prendre du recul et questionne la dimension propagandiste de cette intervention. En bon complément, il y a aussi l'entretien de Bertrand Badie, politiste spécialisé en relations internationales sur le média Off Investigation, qui nous rappelle comment la guerre extérieure se transforme bien souvent en un outil de contrôle politique intérieur. Encore une fois, prudence donc.
Et du coup, pour continuer dans le bad, est-ce que tu veux nous parler de la, mort, c'est ça ?
Eh oui, sujet important s'il en est, et qui est quand même pas mal lié à la guerre, mais bon là, on ne parle pas de guerre. On reste dans Frustration Magazine, qui nous apprend que la France est championne d'Europe de la mort du travail, avec 1297 décès qui ont été liés directement au travail en 2024. Suite à la sortie des chiffres annuels de l'assurance maladie, Nicolas Framont s'interroge sur les causes profondes de ce record macabre que notre beau pays détient depuis 2022. Il faut dire qu'il a de quoi questionner, le double de nos voisins allemands et bien au-delà de la moyenne européenne. Alors qu'on l'estime à 1,63 accidents mortels pour 100 000 travailleurs dans toute l'Europe, en France, il est à 3,6. Non seulement ça, l'article nous dit qu'elles sont très sous-estimées. Nicolas Framont rappelle que les fonctionnaires ou les indépendants, donc par exemple les chauffeurs Uber, les vélos Uber, qui peuvent avoir des accidents très graves dans leur travail, ne sont pas référencés dans ces chiffres par exemple.
Bon, et sinon Marion, tu as un sujet qui va nous permettre d'entamer l'interview avec un peu d'apaisement ou de joie de vivre ?
Eh bien tout à fait, parce que je vais vous parler de prison, et voilà, c'était une blague. Et aussi en plus de Nicolas Sarkozy, oui je sais. On en a bien bouffé, mais justement, la force de la presse indé, je le redis, c'est de réussir à trouver d'autres angles à des sujets surtraités, plus précisément, des voix aussi à mettre en avant qu'on n'entend pas toujours. Alors que sur les plateaux de CNews, on se lamentait de ce que le pauvre Nicolas Sarkozy n'aurait mangé que des yaourts dans sa cellule de peur que l'on crache dans ses plats, Mediapart a de son côté contacté des détenus qui ont passé un petit peu plus que 21 jours en prison, c'est-à-dire, pour employer un jargon judiciaire très technique, qu'ils ont purgé leur peine. Ils nous partagent aussi leur expérience et nous aident à mieux comprendre la réalité crue des détenus aujourd'hui dans notre beau pays des droits de l'homme. Encore une fois, les médias indépendants se font le porte-voix des personnes que les médias traditionnels n'intéressent qu'assez peu. On y découvre au passage des récits de reconstruction mille fois plus inspirants que ce qu'on pourrait lire dans le livre de notre misérable ancien président, du moins si l'on souhaitait vraiment se peiner à essayer de lire le livre. Vous l'aurez noté, je ne suis pas critique littéraire, mais je pense que je préférerais largement lire les récits des invités du plateau de Mediapart, et ça tombe bien, l'un d'entre eux a déjà publié un livre, et un autre est en cours d'écriture. Bref, les témoignages sont à découvrir dans l'émission « À l'air libre » de Mediapart.
Une petite dernière pour faire revenir les auditeurs avant le début de l'interview. Un sujet mignon peut-être ?
Et encore loupé puisque je vais agiter mes ultimes repoussoirs en invoquant les pires affreux jojo du PAF. Hanouna, Coé, Zemmour, Ménès, Depardieu avec une bonne sauce Bolloré par-dessus. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Pour achever de vous convaincre de soutenir la presse indépendante, j'aimerais vous parler d'une enquête toute fraîchement sortie sur la chaîne YouTube Off Investigation, encore eux, réalisée par Clarisse Feltin, qui nous parle de la manière dont l'empire médiatique de Bolloré a la fâcheuse tendance systématique de couvrir ses petits protégés concernant les violences sexistes et sexuelles, même lorsque celles-ci arrivent à l'antenne aux yeux de toutes et tous. Cette dernière enquête montre que depuis des années, le système Bolloré couvre les agresseurs, manipule les victimes pour les faire taire ou au contraire les piéger en plateau et use de stratégies médiatiques pour victimiser les bourreaux. Mais ce qui, je trouve, différencie cette enquête d'autres que j'ai pu voir sur les violences sexistes et sexuelles dans les médias, c'est l'analyse déployée tout au long du documentaire qui nous montre comment la misogynie et la culture du viol sont omniprésentes dans les émissions de la bolosphère, faisant pratiquement partie intégrante du modèle économique de ces chaînes télé, et comment le comportement des victimes est, de manière abjecte, retourné contre elles dans un spectacle cynique. Néocolonialisme, pensée fascisante, rhétorique guerrière et défense des violeurs, fuyez Bolloré, lisez de l'indé.
Eh bien merci Marion pour cette revue de presse un petit peu badante, mais merci pour cette ouverture, effectivement lisez les médias indépendants. Et justement la presse indépendante ce n'est pas uniquement l'actualité brûlante qui s'écrit jour après jour au rythme des chaînes d'actu en continu. Non, cher auditeuriste, tu le sais, la presse indépendante c'est aussi l'information qui a un impact sur le court ou sur le long terme. Et c'est justement pour en parler qu'on accueille aujourd'hui au micro de 4e Murmure notre invitée Cécile Massin. Rebonjour à toi Cécile.
Rebonjour.
Alors Cécile, toi t'es journaliste indépendante, tu as cofondé le média Rembobine, qui a une démarche un petit peu particulière dans le paysage médiatique français, tu vas nous expliquer tout ça. Mais d'abord Cécile, est-ce que tu peux nous dire Rembobine, qu'est-ce que c'est, depuis quand ça existe et comment s'est monté le projet ?
Ouais, bien sûr. Alors Rembobine, c'est un projet qu'on est trois à porter, donc Timothée Vinchon, Simon Glaise et moi-même. C'est un projet qui a vu le jour en 2022, donc ça fait 3 ans maintenant, et en fait il est parti d'une question assez simple qui était de se dire ok très bien des enquêtes sortent, mais qu'est-ce qui se passe après? Comment est-ce qu'on fait finalement pour savoir si elles ont un impact ou pas sur la société? Comment on s'y retrouve? Et en fait, à partir de là, on s'est rendu compte que il y avait pas vraiment d'offres médiatiques qui proposaient justement de se demander ce qui se passait après l'apparition d'une enquête, d'où le terme rembobine. Donc on vient rembobiner l'info. Donc choisir des enquêtes qui sont parues un an auparavant. Et toute l'idée, c'est de se demander justement qu'est-ce qui se passe après. Est-ce qu'il y a des choses qui bougent? Au contraire, est-ce que des fois, le changement est difficile à faire advenir parce que ça demande des changements systémiques et qui sont durs à faire advenir? Voilà.
Et justement, ce que vous proposez, votre offre médiatique, ça s'appuie principalement sur une newsletter qui paraît toutes les deux semaines,
oui.
Sur une enquête en particulier à chaque fois que vous choisissez. Comment est-ce que vous choisissez les enquêtes que vous traitez?
Alors, c'est un vaste débat qu'on a nous-mêmes en interne. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait une veille médiatique assez classique sur ce que fait une très grosse partie de la presse indépendante et aussi un petit peu la presse nationale. Et ensuite, on choisit entre nous sur des sujets qui soit nous paraissent un peu indispensables, soit justement où on a la sensation que c'est passé un petit peu à la trappe et que nous, justement, un an avant, on a envie de se dire, on le remet sur le devant de la scène et on se demande ce qui s'est passé depuis.
Un an après, tu disais, c'est un choix particulier, cette date anniversaire, ou est-ce que c'est plus arbitraire?
Pour le moment, c'est plus arbitraire. En fait, on s'est dit que c'était un bon laps de temps pour réussir à avoir quand même un petit peu de recul, parce que pour aller chercher de l'impact, il y a certaines enquêtes, on pourra y revenir, c'est des déflagrations. En deux semaines, il s'est passé des tas de choses, mais il y en a certaines, et beaucoup en fait, hein, où c'est beaucoup plus long que ça. Et où donc du coup, un an, nous, c'était un laps de temps qui nous paraissait intéressant pour quand même avoir du recul.
Et alors, Rembobine, c'est pas uniquement le retour sur des enquêtes marquantes, c'est aussi d'autres rubriques. Donc, il y a Enquête d'impact, c'est donc la rubrique principale sur laquelle vous revenez sur des enquêtes particulières. C'est la rubrique la plus importante. Il y a aussi l'impact en rédac, qui est à destination des professionnels des médias.
Ouais, absolument. Je pense que ce serait, enfin, pour présenter ça simplement, on peut dire que Rembobine s'adresse une partie de Rembobine s'adresse au grand public, donc avec ces newsletters qui paraissent une fois toutes les deux semaines et qui se retrouvent en fait sur les sites de Rembobine ensuite. Et il y a une partie effectivement qui s'adresse aux professionnels des médias, parce que toute une partie de la vie de notre média, et peut-être qu'on y reviendra, c'est aussi d'accompagner les journalistes, qu'ils soient indépendants ou en rédaction, pour se demander qu'est-ce que c'est que le journalisme d'impact et comment eux faire que justement leurs enquêtes aient de l'impact. Et pour ça, il faut qu'ils aient des outils. Et donc, on a cette rubrique qui est sur le site de Rembobine et à laquelle Marine, d'ailleurs, qui est autour de la table, participe depuis peu.
Et oui, le monde est petit. Il y a aussi la rubrique Les coulisses de l'info qui revient sur la façon dont s'est déroulée une enquête.
Absolument. En fait, ces deux rubriques-là, Enquête d'impact et Les coulisses de l'info, font partie de la newsletter. Et en fait, l'idée, peut-être pour préciser un peu de chaque newsletter, c'est qu'on redise un petit peu dans les grandes lignes l'enquête. Ensuite, nous, on vient expliquer son impact. Et ensuite, l'idée, c'est que le ou la ou les journalistes qui ont produit l'enquête viennent expliquer un petit peu comment est-ce qu'ils ont travaillé et justement est-ce que eux dans leur travail cette question de l'impact ils l'ont prise en compte ou pas.
Justement, on pourra en reparler un petit peu plus tard sur ces liens que vous avez avec d'autres médias et la façon dont vous voulez impacter justement le paysage médiatique français. Et la question que tout le monde se pose et la question qu'on pose évidemment à tous les médias indépendants, c'est quel est le modèle économique de Rembobine? Comment est-ce que vous fonctionnez financièrement?
Alors, initialement, c'est un projet entièrement bénévole. On a eu la chance d'avoir le soutien du FPL, du Fonds pour une presse libre, pour un projet particulier à Rembobine, qui était un guide, donc on y reviendra je pense, un guide sur le journalisme d'impact qu'on a développé en partenariat avec le média d'investigation Disclose. Et donc à côté de ce fonds pour une presse libre qu'on a obtenu, on a bénéficié de la bourse Émergence, qui est à destination des jeunes médias émergents. Donc ça c'est des modèles de bourse qui sont pas pérennes, donc nous on est en train de développer tout un modèle économique. On lance aujourd'hui une campagne de dons parce que ça fait 3 ans qu'on est bénévole. Donc en fait, honnêtement, on tire un peu la langue. Et puis, en fait, on a aussi envie de se développer. Et pour ça, à un moment donné, il faut un petit peu quand même des sous. Donc, l'idée de cette campagne de dons, c'est nous de pouvoir à la fois continuer à produire des newsletters qui sont un peu le cœur de Rembobine, mais pas que. L'idée, ça va être aussi de pouvoir proposer des offres de formation à destination des rédactions pour qu'elles apprennent justement à mesurer leur impact. Ça va être de développer des ateliers à destination du grand public, justement pour questionner cette question de l'impact, sachant que nous, derrière, vraiment ce qu'on défend, c'est que en montrant que le journalisme a de l'impact sur la société, c'est aussi une façon de réconcilier les citoyens avec les médias. Donc ça, c'est un des volets qu'on a envie de développer. Voilà, donc vraiment la partie formation, sensibilisation et puis voilà, écriture des newsletters.
Voilà, donc le message est passé. Citoyens, citoyennes, auditeurices, n'hésitez plus. C'est sur le site de Rembobine, j'imagine.
Voilà, le site, c'est rembobine.info. Donc il suffit d'aller sur ce site et ensuite vraiment vous être redirigé tout de suite vers la page Hello Asso.
Eh bien, allez-y. Et pendant que vous y allez tout de suite, et maintenant qu'on connaît un petit peu mieux le média Rembobine, on se retrouve dans un instant après une première pause musicale. Restez avec nous, on écoute Citron Gingembre de Jeanneto. D'écouter Citron Gingembre de Jeanneto. Vous êtes sur Radio Campus Paris et c'est le troisième épisode de Quatrième Murmure.
Quatrième Murmure sur Radio Campus Paris.
De retour donc sur le plateau de Quatrième Murmure. On est toujours avec notre invitée, la journaliste Cécile Massin du média Rembobine. On vient de le voir, Rembobine, c'est le média qui revient sur des enquêtes marquantes pour voir quels effets, quels impacts ces enquêtes ont sur la société. Et vous l'avez compris, aujourd'hui, on parle de journalisme d'impact avec notre invité. Mais d'ailleurs, Cécile Massin, comment est-ce que tu pourrais définir le journalisme d'impact ?
Le journalisme d'impact, donc, c'est vraiment cette idée de prendre le journalisme dans sa globalité et de se demander comment il peut impacter la société et surtout comment faire pour qu'il impacte la société. Donc nous, l'idée derrière, c'est d'accompagner, comme je disais tout à l'heure, des professionnels pour qu'ils prennent en compte tous leurs outils de travail, de la préparation de l'enquête à sa publication, à ce qui suit la publication, pour prendre en compte l'impact de l'enquête.
Et justement, pour accompagner donc ces médias indépendants, Rembobine, avec le média Disclose, vous avez publié un guide du journalisme d'impact, et plus de 70 pages à destination des professionnels des médias. Le projet, c'est de combler ce manque en termes d'impact qu'il y a dans les enquêtes qui paraissent jusqu'à présent.
Ouais, absolument. L'idée, c'était vraiment que ce soit un outil pratique à destination des professionnels des médias. D'ailleurs, il a été téléchargé plusieurs centaines de fois depuis sa parution en ligne. Je précise qu'il est accessible notamment via le site de Rembobine de façon gratuite. Et l'idée, c'était vraiment d'outiller les professionnels sur cette question qui est finalement assez commune, par exemple, si on va du côté du monde associatif ou des ONG, mais qui est encore assez souterraine dans celui des médias et notamment des médias indépendants. Et donc, on a vraiment pensé ce guide comme un outil qu'on a donc du coup divisé en différentes catégories. Simplement, très rapidement, la première, c'est comment on mesure son impact, en fait. La deuxième, c'est comment est-ce qu'on le multiplie. Et la troisième, c'est comment est-ce qu'on le valorise, soit auprès de son lectorat, soit auprès de ses potentiels financeurs.
Alors justement, est-ce que tu peux revenir sur la façon dont on mesure son impact ? Je vois qu'il y a quatre catégories d'impact qui sont mentionnées dans ce guide. Il y a l'impact médiatique, social, judiciaire et institutionnel. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ces quatre éléments ?
Oui, alors nous, on a choisi ces quatre catégories parce que c'est le modèle le plus répandu. Pour réaliser le guide, il y a eu vachement de recherches qui ont été faites et c'est vraiment le modèle qui nous a semblé le plus pertinent. La première catégorie, donc l'impact médiatique, ça va être est-ce que votre enquête a été copubliée ? Est-ce qu'elle a été mentionnée dans d'autres médias ? Est-ce que peut-être le journaliste, il a été invité à en parler en plateau ? La deuxième catégorie qu'on va avoir, c'est l'impact institutionnel. Donc, est-ce que suite à l'enquête, il y a eu un changement une proposition de loi ? Est-ce qu'il y a eu un rapport officiel ? Est-ce qu'il y a eu un député qui a pris la parole sur le sujet ? Voilà, ça fait partie des impacts institutionnels. Donc le troisième impact, c'est l'impact juridique. Donc ça va être par exemple, est-ce qu'il y a eu une assignation en justice suite à l'apparition de l'enquête ? Et le quatrième, c'est l'impact social ou citoyen. Est-ce que, par exemple, il y a eu une manifestation suite à une enquête ? Est-ce que en entreprise, il y a eu des citoyens qui ont pris la parole suite à une enquête sur le monde du travail ? Voilà, et donc nous, on travaille à partir de ces quatre volets-là pour voir ce qui bouge ou ce qui ne bouge pas, évidemment, suite à l'apparition d'une enquête. Et parfois, c'est évidemment très long à ce que des changements adviennent.
Et tu l'as mentionné tout à l'heure, justement, cet objectif aussi, au-delà de mesurer l'impact des enquêtes qui paraissent, c'est de réconcilier les citoyens, citoyennes avec les médias, avec la presse, et notamment la presse indépendante.
Ouais, c'est vrai que, bon, enfin, je pense que la question de la crise de la confiance entre médias et citoyens, elle a été très documentée, et on entend beaucoup, voilà, que non seulement les journalistes disent n'importe quoi, mais en plus ils servent à rien. Et l'idée, c'est de se dire, bah, en fait, si, des fois, ça sert à quelque chose. C'est pas immédiat, c'est pas un long fleuve tranquille et on s'en doute, mais parfois il y a des choses qui bougent et nous on est assez persuadés que c'est important vraiment de le souligner et en même temps que pour que ça bouge ça peut pas se faire seul. Une enquête à elle seule, c'est très rare quand même qu'elle fasse, qu'elle change toute la société française. Quoi. C'est aussi un panel d'acteurs qui vont travailler ensemble, typiquement des ONG et des médias, qui vont allier leurs forces pour qu'à un moment donné, voilà, il y ait des choses qui bougent. Ouais.
Et d'ailleurs, dans la continuité de ce que tu dis, ce qui est important aussi à retenir, qui est transmis dans ce guide, c'est qu'il faut bien faire la différence entre ce journalisme d'impact impact et ce que certaines personnes pourraient considérer comme étant du militantisme.
Ouais, absolument. C'est un peu la critique qui est faite régulièrement. D'ailleurs, pas seulement quand on parle de journalisme d'impact, à plein de journalistes à qui on reproche leur position dite militante. Nous, on est très clair là-dessus et on en discutait pendant le festival qu'on a organisé sur le sujet. On a invité Marie Dupin, qui est journaliste à la cellule d'investigation de Radio France, et qui revenait très clairement là-dessus en disant, en fait, le journaliste, il vient apporter des faits, et ensuite, libre à une association, un citoyen, un chef d'entreprise, que sais-je, de s'en saisir. Mais le positionnement n'est pas le même, et je pense que c'est important que ce soit clair à ce niveau-là, oui.
Et à travers cette démarche de fournir un guide pour les médias indépendants et pour qu'ils puissent mesurer, entre autres, l'impact de leurs enquêtes, est-ce que le but, c'est que finalement, Rembobine, c'est une question un peu provocatrice, mais n'est plus de raison d'exister pour que finalement tous les médias fassent eux-mêmes leur travail d'impact ?
Alors peut-être qu'à terme, Rembobine prendra une autre forme. Ce qui est sûr, c'est que ce guide, il a vraiment vocation d'accompagnement. L'idée, c'est vraiment d'unir nos forces, et c'est aussi pour ça que le Fonds pour une presse libre nous avait soutenus sur ce projet. C'est parce que c'est aussi un projet que nous, on pense important, vraiment pour l'écosystème des médias indépendants, et c'est aussi pour ça qu'on est en train de développer une offre de formation à destination des médias indépendants, pas que d'ailleurs, des médias tout court, qui auraient envie de s'outiller sur ces questions.
Une offre d'accompagnement qui est d'ailleurs qui pourra être financée grâce à vos dons, chers auditeurs. On le rappelle, c'est sur rembobine.info. Et alors, Cécile, est-ce que vous avez des retours sur les impacts justement dans les rédactions de votre guide sur le journalisme d'impact?
Alors pour le moment, donc il est sorti assez récemment, donc on a surtout des retours de journalistes très enthousiastes qui nous disent que en fait finalement c'est la première fois qu'un tel objet est publié et que eux ça leur ouvre pas mal de champs de réflexion. Pour le moment, je peux pas trop m'avancer là-dessus, mais en tout cas on est en discussion avec plusieurs rédactions, dont des rédactions nationales, pour les accompagner sur le sujet. Donc c'est que il y avait un manque, c'est un peu ce qu'on présentait, et suite à la parution du guide, c'est ce qui se confirme.
Alors tu dis le guide est paru récemment, est-ce que malgré tout il y a quand même une observation sur le type de médias qui est plus ou moins intéressé par le guide? Est-ce que ce sont principalement des médias indépendants ou des médias pas indépendant?
Alors nous, des retours qu'on a pour le moment, on a autant des médias indés que des médias qui ne le sont pas. Plutôt en presse écrite, mais je ne sais pas si c'est parce que c'est contextuel ou si c'est vraiment une donnée qui veut dire quelque chose à l'heure d'aujourd'hui.
Eh bien, maintenant qu'on est bien rodé sur ce qu'est le journalisme d'impact, sur son importance et sur son fonctionnement, je vous propose d'explorer ensemble quelques exemples concrets qui ont été publiés chez Rembobine avec toi, Cécile, qui ont été publiés donc ces derniers mois, notamment pour revenir sur quelques enquêtes marquantes qui continuent d'avoir de l'impact sur notre société.
Je mène en douce ma petite enquête.
Pour d'autres indices?
Tu as un scoop?
Il faut venir et puis faire votre métier, vous faites une petite enquête.
C'est du journalisme total.
Donc on va revenir sur deux enquêtes principalement qui ont été publiées sur Rembobine, mais qui reviennent sur des enquêtes qui avaient été publiées auparavant sur d'autres médias indépendants. La première enquête, ou le premier retour sur enquête, qui est d'ailleurs le plus récent à l'heure où on enregistre cette émission, c'est celui sur les forages de pétrole en France. Parce que oui, il y a encore des forages de pétrole en France.
Absolument, ouais. Donc ça, c'est une enquête de la journaliste indépendante Floriane Louison, qui est parue à l'hiver dernier sur le site de Disclose. Et c'est une enquête qui montre en fait que malgré la loi hydrocarbures qui devait mettre fin à l'exploitation pétrolière en France, près de 50 nouveaux forages pétroliers avaient été autorisés depuis 2017, date à laquelle la loi hydrocarbures était passée. Et Floriane, elle nous expliquait qu'elle avait commencé à travailler sur le sujet parce qu'en fait, elle avait découvert qu'il y avait des forages pétroliers qui continuaient en France et elle le savait pas elle-même. La presse avait un peu traité le sujet, mais le gros de son enquête, c'est vraiment le travail de recensement qu'elle a fait pour arriver à ce chiffre de 47 ou 49, bon, pour arriver à ce chiffre de près de 50 nouveaux puits. Et donc l'idée donc de cette newsletter, ça a été donc de mettre en avant cette enquête et évidemment donc de mesurer son impact. Alors par exemple, typiquement sur la partie politique, il n'y a pas eu de réaction politique particulière. Ça, elle l'explique parce que finalement, dans la masse des sujets environnementaux, les puits pétroliers à ce moment-là, c'était pas ce qui est le plus ressorti et ce qui a le plus retenu l'attention. Par contre, il y a eu d'autres impacts. Par exemple, typiquement depuis la parution de l'enquête, il y a eu des projets de puits pétroliers qui ont été annulés. Il y a eu notamment un arrêté de refus d'ouverture de 8 nouveaux forages pétroliers en Gironde qui a été acté. Donc ça, c'est vraiment intéressant à souligner. Par contre, ça pose une question qui est de se dire, est-ce que c'est suite à cette enquête-là que ces puits ont été annulés, ou est-ce que c'est pas parce que justement il y a eu un panel d'acteurs qui se sont mobilisés sur le sujet qu'ils ont été annulés? Et ça, c'est nous quelque chose aussi qu'on interroge dans cette question d'impact, c'est que parfois voilà, c'est pas un impact d'un point A à un point B, mais ça suit parfois un chemin un peu plus sinueux.
Parfois c'est un peu plus indirect ou direct. Justement, tout à l'heure on pourra évoquer une enquête qui a des impacts vraiment plus directs.
Ouais.
Pour rester sur cette enquête là de Floriane Louison, il y a aussi une mobilisation citoyenne qui s'est levée suite à cette enquête.
Alors c'est pas suite à cette enquête là en particulier, par contre c'est vrai que ça fait quelques années maintenant qu'il y a quand même des grosses mobilisations citoyennes autour des puits de pétrole, et d'ailleurs c'est comme ça que elle avait commencé à travailler, en se disant je vois bien qu'il y a quelque chose qui bouge et que c'est un sujet qui mérite d'être creusé.
Et alors vous, comment est-ce que, chère Rembobine, comment est-ce que vous suivez l'impact qu'a cette enquête? Quelle est la démarche concrètement?
Alors en fait, ça dépend du type d'impact qu'on va aller mesurer. Par exemple, si on est sur de l'impact médiatique, en fait c'est de la veille, hein, vraiment, pour voir ce qui se dit dans les médias. Ensuite, sur l'impact institutionnel, juridique ou citoyen, il y a différents outils qui nous permettent d'aller chercher ces impacts-là, qui sont répertoriés dans le guide du journalisme d'impact et qui vont nous permettre de faire des recherches assez ciblées, notamment pour aller chercher par exemple des propositions de loi ou des prises de parole de députés.
Très bien, et ça c'est donc la démarche qui est habituelle sur chacune des enquêtes sur lesquelles tu reviens, toi,
ouais,
et tes camarades chez Rembobine.
Ouais.
Tu disais, les impacts ne sont pas forcément toujours très directs, c'est le cas de cette enquête-là, et il y a une autre enquête donc, sur laquelle on peut revenir un petit peu plus précisément, qui elle a des impacts plus concrets, enfin en tout cas plus directs et directement visibles sur la société, c'est celle des ventes d'armes à Israël,
ouais,
par le gouvernement français. Enfin, en tout cas par des entreprises françaises. Est-ce que tu peux revenir sur cette enquête qui est donc parue chez Disclose et Mars Actu, il me semble ?
Absolument, ouais. Donc cette enquête, elle a été écrite par Nina Hubinet, qui est journaliste indépendante basée à Marseille. Et en fait, elle a révélé que la France avait autorisé la livraison à Israël de 100 000 maillons de cartouches de fusils mitrailleurs fabriqués par une entreprise marseillaise, donc Eurolinks. Contrairement au discours officiel de l'État français, qui était à ce moment-là de dire « la France ne livre que du matériel défensif ». Et ça, pour le coup, c'est vraiment une enquête qui a eu, je le disais tout à l'heure, vraiment une déflagration à tous les niveaux. On parlait tout à l'heure des quatre impacts qu'il peut y avoir. Vraiment, là, ça a été le cas sur tous les niveaux. Par exemple, donc Sébastien Lecornu, qui était alors ministre des Armées, s'est expliqué sur le sujet à l'Assemblée nationale. Il a nié, à cette période-là, il a nié, mais toujours est-il qu'il a quand même pris la parole, ce qui est vraiment pas rien. Il y a des députés, notamment de la NUPES, qui ont déposé une résolution demandant une commission d'enquête parlementaire sur la complicité de la France dans le génocide commis à Gaza. Donc sur la partie institutionnelle, vraiment, il y a des choses qui ont bougé et c'est loin de s'arrêter là. Sur la partie juridique, il y a des ONG qui ont déposé un recours devant le tribunal administratif de Paris pour demander la suspension immédiate des licences d'exportation d'armes françaises vers Israël. Il y a eu des manifestants avec, enfin une manifestation pardon, avec des centaines de manifestants devant l'entreprise Eurolinks à Marseille, et d'un point de vue médiatique, le sujet a été repris dans la presse francophone, dans la presse étrangère. Voilà, donc elle a été très visible. Ça, c'est vraiment un exemple un peu paradigmatique d'enquête qui a un impact immédiat, quasiment immédiat, et très très important.
Et ce qui est intéressant justement avec cette enquête, c'est qu'elle elle n'est pas seule, elle n'est pas isolée. Elle est suivie de plein d'autres enquêtes qui sont publiées par ce média, Disclose. Là, tu parles en l'occurrence de celle qui a été publiée en octobre 2023, mais d'autres ont suivi, notamment encore au début de l'été 2025, qui ont mené à des manifestations en France, en Italie. Est-ce que vous suivez aussi l'évolution des enquêtes elles-mêmes, enfin des autres enquêtes qui se complètent les unes les autres?
Oui, alors on essaye de le faire. Pour le moment, nous, on est en train, c'est une super question parce qu'on est en train de réfléchir en interne à un format qui permettrait justement de pas se limiter, entre gros guillemets, à ce recul d'un an, mais justement à avoir vraiment une visibilité plus large dans le temps. Ça fait partie des choses qu'on veut développer, mais bon, c'est aussi pour ça qu'on lance une campagne de dons, entre autres, pas sur ce sujet en particulier, mais c'est vrai que ça demande énormément de travail, c'est des gros outils de veille à mettre en place, et on y réfléchit parce qu'effectivement ça aurait vachement de sens aussi.
Quelles sont les prochaines enquêtes qui vont paraître chez Rembobine?
Oui, donc la dernière newsletter de l'année, elle paraîtra donc mardi 16 décembre, et donc on va revenir sur une enquête de la journaliste indépendante Ferielle Alouti, qui a travaillé sur l'hébergement, enfin plutôt le non-hébergement d'ailleurs, des demandeuses d'asile dans la région lyonnaise, et donc elle met en évidence les manquements de l'OFI, qui est l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a l'obligation de proposer un hébergement aux demandeurs et demandeuses d'asile considérés comme les plus vulnérables, parmi lesquels les femmes enceintes. Et il se trouve que, comme souvent, entre la théorie et la pratique, il y a un fossé.
Eh bien, on a hâte de lire ça. Rendez-vous le 16 décembre. Merci Cécile pour toutes ces explications. On y voit un petit peu plus clair dans ce qu'on appelle le journalisme d'impact. Et surtout, on comprend un peu mieux l'importance de la presse indépendante, non seulement pour révéler des informations cruciales, mais aussi pour participer à avoir un réel impact sur la société et tenir son rôle de contre-pouvoir. Mais les médias indépendants, c'est pas seulement le fond, c'est aussi la forme. Et toi Marine, tu nous as préparé une petite chronique sur l'importance du design dans la presse indépendante.
Oui, c'est un sujet qu'on aborde assez peu, mais qui est pourtant clé. On dit souvent, ne vous fiez pas aux apparences, ce qui compte, c'est le contenu. Et c'est vrai, un bon contenu reste lisible, même sans forcément y mettre la forme. Thomas Stephen, qui dirige les équipes design au Monde, me disait à ce sujet, personne ne lit un format, les publics lisent des histoires qui les intéressent. Si le sujet est chiant, il est chiant, le design ne va pas créer de magie. Mais, parce qu'il y a un mais, le design peut rendre un bon contenu plus compréhensible, accessible et engageant. C'est une manière d'utiliser la forme pour servir le fond. Dans un média, tout est pensé pour guider, aider à comprendre, à se repérer et surtout annoncer d'emblée à qui et à quoi on a affaire. Le rôle du design est donc d'indiquer au lecteur ou à la lectrice de là où il ou elle met les pieds. Par exemple, tiens, voilà, mon média s'adresse aux 25-35 ans, il parle des luttes écologiques de façon joyeuse et il porte le féminisme et la justice sociale. Comment on comprend ça? Bah parce que la couve de ma revue, elle fait péter la couleur, parce que les illustrations ne montrent pas uniquement des hommes blancs de 60 ans, parce que la typo du titre est énergique. Voilà, un design soigné, c'est un design qui rend service. Donc on peut prendre un exemple, celui de la revue Fracas. C'est un défi de parler visuel à la radio, mais on va essayer. Sur la couve, on voit le titre Fracas en énorme, anguleux, comme si les lettres se cognaient, se rentraient dedans. En dessous, on voit une scène façon BD avec des personnages de tous âges, de toutes origines, qui s'organisent, qui résistent, ça tire des flèches, ça brandit des outils, ça lutte sous une forêt qui brûle, tout ça face à une main géante armée d'un poignard. Tout est chargé, les détails, les symboles, l'énergie. Les couleurs ocre de ce dernier numéro rappellent les affiches militantes des années 70, la contre-culture graphique. Et bah vous voyez, sans même feuilleter, on capte que cette revue, elle parle de combat écolo, qu'elle vise un public éduqué, engagé, CSP+ urbain, et qu'elle porte une vraie volonté d'inclusivité. Maintenant, on peut regarder Vert, donc un autre média sur l'écologie. Ils utilisent évidemment le vert, ce qui apporte crédibilité et accessibilité, mémorisation immédiate avec cette monochromie assumée. Le mot vert de leur logo, lui, a un empattement doux avec une légère rondeur qui donne une dimension chaleureuse et positive. Dans leur newsletter et sur le site, on retrouve des titres en gras, contrastés mais dans un style ordonné. Il y a donc une recherche de pédagogie, de clarté et de modernité. Ils font usage d'illustrations avec des compositions de personnages stylisés, des graphiques simples et donc évitent les images anxiogènes liées au climat. Leur public, ce sont les jeunes actifs urbains, les gens curieux des enjeux du climat, pas forcément experts, qui veulent comprendre vite et bien.
Il y a aussi une question de légitimité par le design. Quand je vois un graphisme soigné, moi j'ai tendance à me dire que j'ai affaire à un média sérieux.
Bah bien sûr, il y a de ça, et c'est un enjeu clé pour les médias indépendants qui ont besoin d'être connus, reconnus, de prouver leur légitimité. Imagine si Disclose utilisait des images d'illustration générées par IA avec une police comics en MS. Alors on pourrait se dire, si un média veut paraître sérieux, il doit être le plus classique et sobre possible, ressembler à tout prix au monde. Mais en fait, pas forcément. La directrice artistique Christelle Perrin me disait à ce sujet, tout est une question de cohérence. On peut mixer sobriété et audace, une typo classique avec un fond rose par exemple. On peut imaginer des pictogrammes dessinés à la main qui vont apporter un côté manuscrit. Être sérieux, ce n'est pas forcément ressembler le plus possible au monde. Street Press fait très sérieux et a pourtant une identité forte avec du jaune vif et des très gros titres.
Ok, alors ça c'est pour l'identité visuelle, mais le design, c'est aussi une question d'expérience pour le lecteur, non ?
Ouais, complètement. Le design sert aussi à orienter la lecture, où regarder, dans quel ordre, comment naviguer dans un texte long. Sur papier, c'est la hiérarchie visuelle qui fait le travail, sur le web aussi, mais si on met trop d'effets ou trop d'interactions, eh ben on perd les gens. À l'inverse, des titres clairs, un rythme maîtrisé, un scroll fluide, ça rend un sujet accessible immédiatement. Et il y a la question de la compréhension. L'exemple le plus parlant, c'est l'enquête du Monde sur la pollution au PFAS. C'est un sujet complexe, invisible, difficile à expliquer. Alors les équipes design ont conçu une carte très lisible, une identité graphique claire pour ce dossier, et grâce à ça, le public comprend en quelques secondes l'ampleur du problème. En rendant un sujet visuel, on le rend accessible. Il y a aussi l'utilité pure, permettre au public de se situer. Donc certains médias vont ajouter des comparateurs ou des cartes de proximité dans leurs articles. C'est pour permettre à chacun, chacune de comprendre ce qui le ou la concerne. Quand un lecteur ou une lectrice retrouve sa ville ou sa catégorie d'âge dans un article, l'appropriation change tout. Et ça, ça tombe bien, c'est le sujet du jour, ça fait gagner de l'impact aux médias.
Eh bien, merci Marine pour ta chronique radio, mais pourtant très visuelle. Merci pour ça et bravo surtout. On fait une nouvelle pause musicale, une deuxième pause musicale, avant d'enchaîner sur la suite. On se retrouve juste après ce morceau de Frente Horrible.
Somebody's bloody hot, lying in a puddle in the mud. Wish you worried about the one you call the one. Hurry past the hole that holds a hole, missing out what might have been the meaning of the man. My main brain light. Hi, I think I found a buyer for your fire. I think you thought you'd be higher. What you wanted was to walk. All you do is crawl. You're unraveling, heckling yourself. Head half full of hell, half chemical, half hysterical. Leaning out the window when your ego go away. Dying by your hand 'cause everybody says you can. Missing out what might have been the meaning of the missing out. What might have been the meaning of the missing out. What might have been the meaning of the missing out. What might have been the meaning of the missing out. What might have been the meaning of the missing out. What might have been the meaning of the missing out. What might have been the meaning of the missing out. What might have been the meaning of the missing out. What might have been the meaning of the missing out. What might have been the meaning of the missing out. What might have been the meaning of the missing out. What might have been the meaning of the missing out.
On vient d'écouter Horrible de Frente.
Quatrième murmure sur Radio Campus Paris.
Comme à chaque fois pour clôturer les épisodes de Quatrième murmure, on va en région à la rencontre des médias indépendants qui constellent le pays. Toi Luna, tu es restée en Ile-de-France et tu as rencontré Gary Libaud du média Le Chiffon.
Je me casse de Paris.
Je vais voyager.
Je fais le tour de France.
Il y aura toute la presse locale.
J'avais peut-être tout simplement envie de voir du pays.
Je me trouve dans les locaux du journal Le Chiffon, le journal de Paname et sa banlieue, comme il se présente.
Pour répondre à mes questions, je suis en compagnie de Gary Libaud. Bonjour Gary.
Bonjour.
Le Chiffon est un trimestriel lancé à la fin de 2021. Est-ce que tu peux nous raconter le contexte du lancement de ce journal ?
On est en fait une petite bande à faire un constat surprenant, puisqu'il s'agit de dire qu'il n'y a pas de journaux indépendants des puissances d'argent, des puissances politiciennes, à Paris et en Ile-de-France. On observe des journaux départementaux, régionaux, un peu partout ailleurs. Ça n'existe pas ici. Comment ça se fait ? Eh ben, on va essayer d'en créer un. Voilà. Donc l'idée, ça va être de faire quelque chose d'antagonique, disons, aux Parisiens. Non pas un quotidien, mais un trimestriel. Bon, on n'a pas les mêmes moyens non plus. Non pas du format qui tend à se raccourcir et être décontextualisé, mais de l'enquête, du reportage, un peu d'investigation, qui va avoir pour but de faire un travail de terrain, avant tout. Voilà, on se déplace, et une mise en contexte, disons, par les humanités, par les sciences sociales, par de l'histoire, par de la philosophie, de la socio, de l'anthropologie, plein de choses, de l'économie, de nos sujets. L'idée, c'est de faire peu, mais de faire bien, et fondamental de défendre un espace éditorial papier. Je dis un mot de plus sur ce qui nous porte alors, notamment à partir du deuxième lancement en 2021. On est un certain nombre à faire le constat qu'il y a ce qu'on pourrait appeler une troisième grande transformation de Paris et de la région. Après celle d'Haussmann sous le Second Empire, et après celle de Paul Delouvrier et de Gaulle dans les années 60 avec la création des villes nouvelles, là on voit l'installation du Grand Paris Express, qui est un projet proprement pharaonique, hein, sur lequel je reviens pas dans le détail, mais qui a pour but de régionaliser le Grand Paris, disons, pour continuer à attirer, disons, les capitaux, les cerveaux, la puissance industrielle, etc., dans le jeu de compétition des villes mondiales, quoi. Donc pour nous, il fallait un journal aussi critique de ces transformations profondes qui ont des incidences urbaines, géographiques, écologiques, administratives, esthétiques, etc.
Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cet angle-là en tant que journal indépendant de Paris et un peu du Grand Paris malgré
Et de l'Île-de-France entière, en vérité. Ça s'est fait. En fait, on n'est pas un journal orienté autour de l'urbanisme et autres, de l'aménagement du territoire. On est un certain nombre à être préoccupés par des sujets qui touchent à ce domaine. Mais on reste un journal généraliste qui traite une multiplicité de sujets et tous les sujets pourvu qu'ils soient abordés de manière pertinente, fine, intéressante pour nous. On aborde par exemple dans le dernier numéro un portrait de Sofia Zaïkovska qui est une anarchiste naturienne qui a lancé une petite expérience libertaire à Saint-Maur-des-Fossés au début du XXe siècle et ouvert les premiers restaurants végétaliens de Paris. On enquête sur les campings franciliens en cours de Disneylandisation, d'embourgeoisement. Et puis on part sur des portraits d'artistes dans un lieu assez surprenant à Saint-Denis, à la Briche. Voilà, donc on raconte plein de choses. C'est vrai que, notamment moi dans ces colonnes, je pense que les questions de... En fait, on traite beaucoup de la question de la métropolisation, de l'installation progressive du Grand Paris, et des logiques qui ont cours dans l'artificialisation du territoire, dans la construction de pôles de production industrielle, de pôles technoscientifiques. On a fait un dossier sur Saclay. Et on revient immanquablement aussi sur la question du réseau de transport de métro du Grand Paris Express, donc qui s'étale en gros de 2015 à 2035. Ça, pour nous, c'est vrai que c'est des sujets transversaux qui ont des incidences d'un point de vue écologique, d'un point de vue économique, d'un point de vue politique à beaucoup d'égards. Voilà.
On va sur votre page Instagram. On peut lire que vous avez annoncé votre sortie des réseaux sociaux en janvier dernier. Est-ce que tu peux nous parler de cette décision, comment vous l'avez prise vraiment, parce que du coup, c'est pas un truc qui date de la fondation du journal, et de l'impact qu'elle a eu pour le chiffon depuis bientôt un an, donc vous commencez peut-être à avoir un tout petit peu de recul.
Ça, c'est une question importante pour nous. Les comptes ont été créés très vite. En fait, on n'a jamais vraiment été actif sur les réseaux. C'était pas notre truc, c'était pas notre monde. Et donc, fin 2024, s'organise une campagne de désertion en ligne de Twitter, X, racheté par Elon Musk et mise au service de Donald Trump, assez explicitement. Et donc, un certain nombre de consoeurs, confrères, associations, personnalités diverses, appellent à quitter Twitter, fiers, pour absolument rester sur Facebook, sur Instagram, sur les autres réseaux en fait, ou alors pour carrément appeler à rejoindre des réseaux alternatifs, Blue Sky et Mastodon. Et nous on dit en fait cet appel à la désertion n'en est pas un, c'est une tartufferie, il s'agit de quitter Twitter, c'est une évidence, mais il s'agit aussi de quitter les autres réseaux sociaux et de ne pas rejoindre ceux qui sont prétendus décentralisés, démocratiques, horizontaux, machin. Donc on va faire un appel en ce sens à quitter tous les réseaux sociaux, une invitation au plus vite à la désertion. Et donc, pour nous, ça va vouloir dire se recentrer un peu plus sur du collage public pour annoncer la sortie de nos numéros. Ça va vouloir dire quand même, on a des pratiques informatiques, hein, faudrait pas se faire trop d'idées, se rattacher un peu plus à l'infolettre. Sur le fond de notre appel, on essaie d'avoir une vision un peu synthétique et dire que la numérisation de nos pratiques d'information et de notre quotidien pour tout un tas de tâches professionnelles, conjugales, amicales, dans nos rapports à l'administration, en souffre. Il s'agirait de penser une dénumérisation progressive de notre existence, le numérique étant, selon nous, au cœur du problème écologique contemporain. Voilà, donc ça fait en effet bientôt un an qu'on a quitté les réseaux, puisque on l'a fait le 20 janvier 2025. Et je dirais que on sent pas la différence. Les ventes se maintiennent, les abonnements, l'activité de la boîte aux lettres est à peu près similaire. Donc pour nous, c'est une sage décision. Qui nous fait gagner du temps. Bon, on en passait pas beaucoup, hein, mais quand même. Donc on est, voilà, on pense, on invite tout un chacun à ce départ. Et donc on a mis sur les deux réseaux sur lesquels on était, propriété de Mark Zuckerberg, un petit mot. C'est un acte de décès numérique pour expliquer les raisons de notre départ. Voilà.
Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un mot sur donc le collectif, c'est ça, que vous avez formé avec plusieurs autres journaux régionaux ?
Oui, alors on est cofondateur avec une dizaine de rédactions partout en France du syndicat de la presse Pas Pareil, qui est un syndicat de revendication commune à des titres de presse alternatifs, principalement papier à l'origine, mais pas seulement, on a aussi quelques radios, une paire de télévisions alternatives, de sites internet. On est aujourd'hui 45 rédactions en France et l'idée c'est de constituer un contre-paysage médiatique à l'heure de Bolloré, à l'heure d'un raidissement éditorial du service public et à l'heure aussi quand même de la technologisation, de la numérisation du journalisme. Il y a l'idée de défendre un artisanat journalistique, si je peux dire, qui fait vivre une autre manière de confectionner, de diffuser l'information. Et donc on a des assises annuelles, des réunions régionales au long de l'année. On partage des tables de presse, on fait des interventions communes. Voilà, donc on invite aussi les rédactions indépendantes des puissances d'argent, des puissances politiques et autres à s'informer. On a un site internet où c'est une plateforme d'abonnement commun à prix réduit à différents de nos titres. Voilà, donc à réfléchir à nous rejoindre. Voilà.
Vous sortez 4 numéros par an et vous vendez ce journal, alors garanti entièrement sans IA, j'ai vu sur votre première page, à 4 euros et même à prix libre dans la rue, et à 4,50 pour un abonnement annuel. Et à 10 euros pour le prix soutien. De plus, vous publiez gratuitement sur votre site un certain nombre d'articles. Il faudra que tu reviennes sur comment est-ce que vous choisissez quels articles sont publiés sur le site. Ah, okay. Et vous vendez des bouts de chiffon, donc des petits livres édités d'anciens articles, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux parler de comment vous avez mis en fait tout ce modèle-là en place? J'imagine que ça a dû se faire au fur et à mesure. Et de comment est composée l'équipe? Comment est-ce que ça fonctionne économiquement pour vous?
D'accord. Alors en effet, on a un site internet, lechiffon.fr, où on publie une sélection d'articles. Ça fait la publication d'un cinquième, un sixième du journal en ligne, grosso modo. L'idée, c'est que ce soit une petite lucarne qui donne un avant-goût de notre travail, mais que ça redirige vers le papier. Voilà, encore une fois, on est vraiment dans... On veut pas de version en ligne intégrale, on veut pas monétiser un PDF ou quoi que ce soit, surtout pas. On trouve la cartographie des lieux de diffusion du journal dans toute la région. On est à peu près dans 90 lieux, donc. Sur l'équipe, donc, on est une rédaction, disons, de... on est une quinzaine par numéro. Une dizaine de personnes à la rédaction et 5, 6, 7 personnes à l'illustration. Voilà. Les tâches éditoriales et graphiques sont faites à titre entièrement bénévole pour l'instant. Seules les tâches administratives de distribution et puis d'animation un petit peu de l'équipe sont structurées autour d'un salarié. Et puis on paye une direction artistique qui se charge de penser la maquette, penser et réaliser la maquette.
Vous imprimez à peu près combien de...
d'exemplaires? C'est une impression quand même assez confidentielle pour l'instant, hein, quand on pense aux Parisiens. On est entre 1500 et 2000 exemplaires par trimestre, par numéro.
Super, bah merci beaucoup pour toutes ces réponses.
Eh bien, merci Luna pour cette interview avec Gary du Chiffon. Merci aussi donc à Gary, le rédacteur en chef. Et on le rappelle, le Chiffon, c'est un trimestriel papier qui est disponible en librairie et dans certains kiosques, alors n'hésitez pas, il y en a sûrement près de chez vous. C'est déjà la fin de cet épisode de Quatrième Murmure. On était en compagnie de la journaliste Cécile Massin pour parler du média Rembobine et du journalisme d'impact. Merci Cécile d'être venue dans Quatrième Murmure, merci à Marine, Luna et Marion qui étaient toutes les trois avec nous. Et enfin, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le quatrième épisode de Quatrième Murmure, avec une voix un petit peu moins cassée, je l'espère. Et en attendant, n'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez avoir un impact sur la société en soutenant la presse indépendante.